Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 8h.
Je pense que cette année, tout le monde s'est gardé dans un coin de la tête que peut-être qu'on allait finir en contrôle continu et qu'il fallait un peu surveiller sa moyenne générale.
Les lycéens s'y attendaient, certains l'espéraient. Le ministre de l'Éducation l'a annoncé tard hier soir, les épreuves du bac prévues en mars n'auront pas lieu. Et dans le même temps, le gouvernement emploie de plus en plus le mot « confinement » comme une hypothèse pour les prochaines semaines. Le labo Pfizer va nous livrer moins de flacons de vaccins car on peut théoriquement en extraire 6 doses à chaque fois et non pas 5. Sur le terrain, les soignants vont devoir se débrouiller avec leurs aiguilles, parfois inadaptées. Dans ce journal, Jacqueline Gourault, Brigitte Bourguignon, Laurent Pietraszewski, ça se dispute parmi les ministres pour savoir qui fera passer son projet de loi avant la fin du quinquennat. Et puis l'humour, la meilleure arme contre l'homophobie, un court-métrage cartonne sur Internet et pourrait bien être diffusé aux collégiens et lycéens.
Juste après ce journal, la question des frontières, toujours à l'heure de la diffusion des variants. Conseil européen hier soir, il faudra un test PCR pour entrer en France. Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des affaires européennes, répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Comme un air de déjà-vu, les épreuves de spécialité pour le bac 2021 qui étaient prévues mi-mars n'auront pas lieu. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, l'a annoncé dans une lettre aux professeurs hier soir.
Bonjour Virginie Riva.
Bonjour.
Notre spécialiste éducation à Europe 1. Cette lettre du ministre, vous avez pu la consulter?
Oui, ces épreuves auxquelles se préparaient les terminales depuis septembre sont remplacées par du contrôle continu sur la base des moyennes des trois trimestres de terminale dans les enseignements de spécialité. Une décision, dit le ministre, motivée par les témoignages d'élèves et de profs inquiets car tous engagés dans une course contre la montre pour finir les programmes. Alors que 7 lycées sur 10 sont passés au cours moitié en présentiel, moitié à distance. S'ajoute à cela le risque de rupture d'égalité entre ceux qui ont continué les cours en 100% présentiel et les autres. Risque évoqué par Jean-Michel Blanquer. Le choix de reporter les épreuves en juin, comme le souhaitaient les syndicats, est écarté. Cela aurait fait perdre trop de semaines de cours, explique le ministre. Le grand oral est quant à lui sanctuarisé comme rite de passage du bac. Même chose pour les épreuves de français en première et de philosophie en terminale, mais avec des programmes allégés. Cette décision est saluée ce matin par le SNES, même si le syndicat dénonce la rupture d'égalité potentielle avec l'instauration du contrôle continu. Le ministère va d'ailleurs fournir aux professeurs un guide d'évaluation pour obtenir les notes les plus objectives possibles.
Virginie Riva.
Alors cette annulation des épreuves prévues mi-mars est-elle un indice que plus largement la situation sanitaire se tend ?
Eh bien, hier soir, autre ministre, celui de la Santé, Olivier Véran, sur TF1, qui explique qu'il attend encore les remontées épidémiologiques pour savoir si le couvre-feu généralisé à 18h est suffisant.
Aujourd'hui, nous sommes avec ce couvre-feu national à 18h, dont nous espérons des effets positifs. Si la situation devait évoluer, notamment si nous devions constater qu'il y aurait davantage de variants anglais et que nous étions sur une pente épidémique à l'anglaise, par exemple, ou si nous constations que malgré le couvre-feu à 18h, la pression sanitaire, la saturation des hôpitaux devait augmenter, alors nous pourrions être amenés à prendre des mesures plus dures, telles que celles que les Français ont déjà connues pendant l'automne.
C'est-à-dire ?
Ça peut aller jusqu'à un confinement si la situation devait l'exiger.
Si la situation devait l'exiger, nous dit Olivier Véran, qui confirme par ailleurs que la France tiendra ses objectifs de vaccination et même les dépassera pour le mois de janvier. 1 300 000 injections auront eu lieu, au lieu d'un million prévu. Le ministre de la Santé vise un total de 4 millions d'ici fin février.
Avec une contrainte supplémentaire, le laboratoire Pfizer va réduire le nombre de flacons de vaccins livrés à la France.
Oui, car les autorités sanitaires européennes considèrent qu'avec un flacon, on peut injecter jusqu'à 6 doses et non pas 5. Et comme Pfizer s'était engagé sur un nombre de doses et non pas sur un nombre de flacons, l'entreprise s'autorise à ralentir le rythme.
Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour.
Ce changement force les soignants à d'infinies précautions.
Effectivement, prélever 6 doses au lieu de 5, c'est un geste assez particulier. Les autorités sanitaires ont publié du coup des notices techniques à destination des vaccinateurs. C'est un geste qui demande un peu plus de concentration, confirme le professeur Olivier Épaulard, infectiologue au CHU de Grenoble, où 400 personnes sont vaccinées chaque jour. Et cette procédure exige aussi d'utiliser un certain type d'aiguille très fine pour limiter les pertes. Chaque dose comprend précisément 0,3 ml.
Concrètement, on veut pas que quand on reconstitue les doses de vaccin, il y en ait beaucoup qui restent dans les aiguilles de prélèvement. Mais en général, on arrive presque toujours à prélever 6 fois 0,3 ml et en fonction peut-être aussi un petit peu de l'habitude de la personne. la sixième dose est plus ou moins simple à récupérer.
Tout est fait pour équiper rapidement les centres de vaccination avec ces aiguilles adaptées, indique le ministère de la Santé. Et en cas d'échec, s'il ne reste plus assez de liquide pour la sixième dose, dans ce cas, la règle est très claire. On jette ce qu'il reste. Il y a interdiction totale de mélanger le contenu de deux flacons.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Gros changement par ailleurs pour les déplacements à l'intérieur de l'Union européenne. La France demande désormais, ce sera valable à partir de dimanche, un test PCR négatif à tout voyageur arrivant sur son sol, même en provenance d'un pays d'Europe. Et à propos d'Europe, il y avait comme un parfum de scandale autour d'une instance de l'Union, Frontex, le gendarme des frontières, accusé par plusieurs médias d'avoir refoulé illégalement en Méditerranée des bateaux de migrants vers la Turquie.
Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour.
Au terme d'une enquête et de deux jours de conseil d'administration de Frontex sur ce sujet, la conclusion est qu'il n'y a pas eu de violation des droits fondamentaux.
Oui, le conseil d'administration est chargé de contrôler l'Agence européenne des gardes-frontières. Il a donc enquêté sur 13 incidents impliquant des bateaux de migrants dans la mer entre la Grèce et la Turquie. Le rapport est clair. À ce stade, les enquêteurs n'ont rien trouvé qui incrimine Frontex. Ils blanchissent l'agence des accusations de violation des droits fondamentaux dans 8 cas sur 13. Pour les 5 derniers incidents, ils attendent plus d'informations. Frontex affirme avoir manqué de temps pour les fournir. Pas sûr que cela suffise à faire retomber la pression autour de l'agence et de son directeur exécutif, le français Fabrice Leggeri. La Commission européenne critique maintenant sa gestion et la lenteur du recrutement des gardes-frontières. En toile de fond de ces tensions, il y a en fait deux visions du dossier migratoire. Frontex a été chargé de lutter contre la migration irrégulière, mais voilà, la nouvelle commission a changé de ligne. Elle souhaite une approche plus humaine, au point même de rester très discrète sur le déploiement historique des premiers gardes-frontières en uniforme européen.
Isabelle Horry en ligne de Bruxelles pour Europe 1.
Si on fait les comptes, il y aurait donc 66 millions de procureurs, selon le président de la République. Nicolas Bétou nous en parlait dans sa chronique juste avant le journal. Il y a aussi 43 ministres et il ne reste plus, j'ai vérifié, que 456 jours avant l'élection présidentielle, avec un calendrier déjà bien occupé, loi séparatisme, loi sur le climat et futur projet de budget.
Bonjour Aurélie Herbemont.
Bonjour.
Les ministres sont donc obligés de batailler pour décrocher une place.
Et oui, Emmanuel Macron a fixé la règle pour trancher. Il veut d'ici la fin du mois les argumentaires de ses ministres où ils défendent leur projet. On attend que César lève ou baisse le pouce, confie un conseiller ministériel. Un exemple, la ministre des collectivités locales, Jacqueline Gourault, se bat pour sa loi 4D, nouvelle étape de la décentralisation. Ça ne parle pas assez au quotidien des gens, torpille un dirigeant macroniste. Mais la ministre a un argument sérieux. Il ne faudrait pas froisser les élus locaux à l'approche des élections.
Oui, donc d'autres ministres vont tenter leur chance ?
Oui, Brigitte Bourguignon, chargée de l'autonomie, elle travaille sur la loi Grand Âge. On y va jusqu'au bout, dit-on au ministère. C'est un projet à 10 milliards d'euros, c'est beaucoup, surtout en ce moment. Alors en coulisses, on réfléchit à un texte peut-être moins ambitieux pour quand même avancer sur le dossier avant la fin du quinquennat et espérer marquer des points dans l'opinion. Autre exemple, le monsieur retraite du gouvernement, Laurent Pietraszewski, qui enverra aussi sa copie. Emmanuel Macron mouline toujours sur cette réforme, dit un de ses proches, mais c'est un sujet explosif. Beaucoup plaident pour recycler ce projet pendant la campagne.
Oui, alors le gouvernement en fait n'a plus que 6 mois utiles, si je vous suis, et Emmanuel Macron veut aussi un plan égalité des chances.
Ah oui, c'est la priorité du président pour parler à la gauche, mais Matignon prévient, sans doute pas de grand projet de loi dédié. L'idée, des mesures concrètes sans passer par la case Parlement, histoire de gagner du temps tout en ayant un bilan à présenter aux Français.
Enquête signée Aurélie Herbemont. Merci Aurélie.
Vous restez bien avec nous. On va parler de ce court-métrage qui cartonne sur Internet. Car l'humour, c'est sans doute la meilleure arme pour lutter contre l'homophobie auprès des jeunes. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h11 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Ce sont deux lettres synonymes d'insultes, de rejet, de discrimination. PD, c'est aussi le titre d'un court-métrage engagé et qui rencontre un vrai succès. 1,5 million de visionnages en 3 semaines.
Alors que les agressions homophobes et transphobes ont augmenté de 36% en un an, selon l'association SOS Homophobie, eh bien, l'éducation nationale réfléchit à diffuser ce film dans les écoles. Angèle Châtelier.
Olivier Lallard, le réalisateur du court-métrage PD, forme des collégiens et des lycéens au métier du cinéma. Et cette insulte sort souvent de la bouche des élèves, ce qui l'a poussé à faire un film sur l'homophobie.
Dans leur tête, c'était pas forcément dit de manière homophobe, mais c'était un peu l'insulte tendance. Et je me suis posé la question et je voulais alerter sur ce mot-là et justement le déconstruire et interpeller dessus, en fait, sur le sens de ce mot, parce qu'il peut blesser.
Pour ça, il met en scène Thomas, 17 ans, qui tombe amoureux d'un garçon. Au lycée, ça finit par se savoir et les remarques fusent.
Moi, je me change plus à côté de lui. Hein.
Vas-y, comment ça, là ?
PD.
Dans le court-métrage, un professeur s'adresse à sa classe.
Vous, ce qu'on vous apprend de Jules César, c'est quoi ?
Un grand empereur, un grand conquérant, un grand guerrier.
Ben, Jules César, c'est aussi un grand PD.
Monsieur, vous avez dit PD, là ?
Moi, j'ai le droit, parce que je le suis.
Olivier Lallard a déjà montré son film à des lycéens, et les réactions sont en demi-teinte.
Quand on a projeté la première scène du film où les deux garçons s'embrassent pour la première fois, on entendait des vrais des bas au fond de la salle, des vraies réactions de dégoût très fortes, et où, à la fin, sur 150 élèves, on leur a demandé qui a été dégoûté, et on en a 15 qui ont levé la main, quand même.
Le chemin est donc encore long. Plusieurs académies l'ont déjà contacté pour diffuser le film dans leur établissement.
Angèle Châtelier, et puis le groupe français Décathlon, cela joue à l'américaine.
Cette musique, cette ambiance, c'est celle des parquets de NBA.
Oui, Décathlon devient distributeur officiel du célébrissime championnat de basket des États-Unis. On verra donc des produits sous sa marque Tarmac aux couleurs de la NBA et des franchises, les clubs hein, comme les Lakers de Los Angeles, le Miami Heat ou les Chicago Bulls.
Chez Décathlon. Incroyable.
Exactement.
Vous savez que c'est l'entreprise préférée des Français, Décathlon, qui conquiert les parquets de NBA. Moi, je voudrais vous parler d'un autre homme. On va dire un mot simplement de Rémi Julien. On a appris le décès de Rémi Julien à l'âge de 90 ans, très tôt ce matin. Alors, il y a plusieurs générations. Première cascade de ce cascadeur français, 1964, Fantomas. Pour d'autres, c'est Taxi, les films produits par Luc Besson. Et on peut faire si James Bond, les films de Belmondo, La Grande Vadrouille. On va rendre hommage à Rémi Julien, décédé des suites du Covid. On l'a appris ce matin. Ce sera à 8h30, dans le journal de 8h30, avec notre spécialiste ciné, Mathieu Charrier. 8h13 sur Europe 1. Merci
Europe 1,
François, c'était le
Mathieu
journal de 8h. Pardon, monsieur. Nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour monsieur, bonjour Mathieu, bonjour à tous. La France va réclamer un test PCR négatif aux voyageurs européens. Alors va-t-on vers d'autres mesures. On a envie de comprendre ce matin. Le tabou du rétablissement des contrôles aux frontières a-t-il volé en éclats ? A tout de suite avec mon invité, c'est le secrétaire d'État en charge des affaires européennes, Clément Beaune.
A tout de suite, il est 8h14.